La voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Le Monde Aujourd'hui. Une demi-heure d'infos sur la VOA. Jacques Aristide avec vous en compagnie de Anne Albertson. En ce jeudi 17 avril 2014. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Le fil conducteur ce matin au Sénégal, Karim Wade en prison depuis un an, sera finalement jugé dans 2 mois pour enrichissement illicite.
Monsieur Wade nie les accusations portées contre lui. Le Parti démocratique sénégalais, formation d'Abdoulaye Wade et son fils, a dénoncé une chasse aux sorcières visant ses responsables.
En Guinée-Bissau, la bataille pour la présidentielle opposera le 18 mai José Mario Vaz à Nuno Gomes Nabiam. À l'international, des pourparlers décisifs ce jeudi à Genève pour tenter de trouver une issue à la crise ukrainienne. Et dans la partie magazine, éclairage sur le récent kidnapping massif d'écolières au Nigeria.
La question de l'enlèvement de ces jeunes filles est vraiment bien compliquée parce qu'on ne sait pas exactement qui est responsable de cet acte.
Également à venir, les sports et la musique du jour. Je vous le disais en titre, au Sénégal, les juges d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI, ont décidé hier du sort de Karim Wade, fils et ancien ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade. Son procès aura finalement lieu en juin. Darina Naidoo.
Karim Wade est en détention préventive depuis un an pour enrichissement illicite présumé portant sur des avoirs de 2,4 milliards de dollars. Âgé de 46 ans, M. Wade nie les accusations portées contre lui. Plusieurs anciens responsables, dont les ministres et directeurs de sociétés, ont été interrogés, interdits de voyage hors du Sénégal ou emprisonnés dans le cadre de la traque dite des biens mal acquis déclenchée par le régime de Macky Sall. Le Parti démocratique sénégalais, formation d'Abdoulaye Wade et son fils, a dénoncé une chasse aux sorcières visant ses responsables. Plusieurs manifestations ont été organisées par des militants et sympathisants du Parti démocratique sénégalais pour demander la libération de Karim Wade. Celui-ci a refusé la semaine dernière de répondre aux questions des juges de la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Le ministre sénégalais de la Justice, Sidiki Kaba, a assuré hier que Karim Wade aurait droit à un procès juste et équitable. Tous ceux qui sont impliqués dans la traque des biens, supposés mal acquis, bénéficient de la présomption d'innocence, y compris Karim Wade, a déclaré le ministre. Selon la loi, la Cour a 2 mois pour ouvrir le procès.
En Guinée, 7 personnes ont péri suite à un effondrement dans une mine d'or dans la province de Siguiri. Le drame s'est produit mardi dans la sous-préfecture de Kitignan. Au moins 8 autres personnes ont été blessées, dont 2 sérieusement. Les victimes, 5 femmes et 2 enfants, se livraient à une exploitation artisanale de l'or, sans aucune mesure de sécurité ou de protection, selon des agences de presse citant les autorités de la région. L'exploitation minière artisanale avait été interdite dans la région depuis 2012, d'après la police qui enquête sur une société minière guinéenne après l'incident. Des tragédies similaires se sont déjà produites à Siguiri en raison de l'exploitation artisanale de l'or.
En Guinée-Bissau, un second tour de la présidentielle opposera le 18 mai José Mario Vaz, candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, le PAIGC, à Nuno Gomes Nabiam, candidat soutenu par l'armée. C'est ce qu'a annoncé hier la Commission nationale électorale du pays. Monsieur Vaz est arrivé en tête du premier tour du 13 avril. Avec 40,9% devant M. Nabiam, qui a obtenu 25,1%, le PAIGC, principal parti du pays, a remporté la majorité absolue dès le premier tour des législatives, organisé le même jour avec 55 sièges de députés sur 102.
Au Kenya, la police a interpellé plus de 1000 personnes et en a déporté 225 autres dans le cadre d'opérations contre l'immigration illégale. Des groupes de défense des droits de l'homme accusent les forces de sécurité de cibler les Somaliens dans des rafles à Nairobi. Michel Joseph.
Le porte-parole de la police kenyane, Masoud Mwinyi, a déclaré que l'opération baptisée Usalama Watch, qui a débuté ce mois d'avril, a été intensifiée.
Operation Usalama Watch has continued to arrest criminals
L'opération Oussalama Watch a continué d'arrêter des criminels, des terroristes présumés et des immigrés illégaux. 1136 suspects de 14 nationalités ont subi les contrôles de sécurité en date du 15 avril. Sur 225 personnes en cours d'expulsion, 82 ont été envoyées à Mogadiscio, tandis que les réfugiés sont renvoyés dans les camps du nord du Kenya. Pour Awil Aden Ahmed, militant politique à Nairobi, il s'agit d'une opération à caractère ethnique. Tous les Somalis voient que leur population et leurs entreprises ont été ciblées. Ils voient cela comme une guerre totale contre les Somalis. Certains témoignages disent que la police a menacé d'arrêter des résidents légaux s'ils ne donnaient pas des pots de vin. En attendant un rapport sur la conduite de la police, le porte-parole du gouvernement conteste les allégations selon lesquelles un groupe particulier serait visé.
20 ans après le génocide perpétré au Rwanda, les excuses continuent. Le diplomate qui présidait le Conseil de sécurité de l'ONU en avril 1994, le néo-zélandais Colin Keating, a présenté officiellement ses excuses pour l'impuissance de cet organe à agir. C'était hier au cours d'une séance publique pour commémorer la tragédie rwandaise. Avec le recul, a ajouté M. Keating, la décision prise par le Conseil le 21 avril 1994 de réduire les effectifs de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, la MINUAR, ressemble plus à un cadeau naïf qui avait été fait aux génocidaires à Kigali. Lors de la séance d'hier, le Conseil de sécurité a demandé aux États membres de s'engager à nouveau à prévenir et à combattre le génocide ainsi que les autres crimes graves définis par le droit international.
Et puis le secrétaire général de l'ONU a appelé hier la communauté internationale et les bailleurs de fonds à ne pas laisser tomber le Soudan du Sud, pays qui fait face à une grave crise humanitaire en raison d'une guerre civile. Sans une action immédiate, a averti Ban Ki-moon, près d'1 million de personnes pourraient être confrontées à la famine dans quelques mois. L'Union européenne, les États-Unis et les Nations unies ont lancé ensemble un appel à l'action en faveur du Soudan du Sud.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Tunisie, des centaines de personnes sont sorties hier dans la rue pour dénoncer les verdicts en faveur d'ex-responsables du régime de Ben Ali. Ils étaient jugés dans l'affaire des manifestants tués et blessés pendant la révolution de 2011. Jean-Roger Billon.
Le cortège en tête duquel se trouvaient des membres des familles des victimes et des blessés, dont certains en fauteuil roulant, défilé du tribunal militaire de Bab Sadoun à Tunis jusqu'au siège de l'Assemblée constituante. Le tribunal militaire a rendu samedi dernier sa décision dans plusieurs affaires jugées en appel, dont celle des manifestants tués dans le Grand Tunis et à Sfax pendant la révolte populaire contre le régime de Ben Ali. L'ex-chef des brigades spéciales Jalel Boudriga a ainsi vu sa peine réduite de 10 ans à 3 ans de prison. L'ancien directeur de la sécurité présidentielle Ali Seriati a lui été condamné à 3 ans de prison, tout comme l'ex-ministre de l'Intérieur Rafik Belhadj Kassem. Ayant été emprisonné depuis la chute de Ben Ali en 2011, il pourrait être libéré dans les semaines à venir. Ces verdicts jugés très clément ont été vivement critiqués par l'essentiel de la classe politique et la société civile.
Des négociations sur la crise ukrainienne doivent s'ouvrir aujourd'hui à Genève. Youri Klimenko, représentant de l'Ukraine à l'ONU, a affiché son optimisme à quelques heures des pourparlers qui s'annoncent pourtant difficiles. Camille Grosdidier.
Des négociations cruciales sont prévues ce jeudi à Genève pour tenter d'éviter que l'Ukraine ne sombre dans la guerre civile. Elles rassembleront les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de l'Union européenne, de la Russie et de l'Ukraine. À la veille de la rencontre, Youri Klimenko a reconnu qu'il ne sera pas facile de rétablir l'ordre dans son pays ou de forcer la Russie à renoncer à ses ambitions territoriales. Pour Kiev, la négociation demeure la seule option, a-t-il poursuivi. Mais si Moscou reste agressif, l'Ukraine fera tout pour se défendre, selon l'ambassadeur Youri Klimenko. En cas d'agression flagrante contre l'Ukraine, contre l'Est et le Sud du pays, l'Ukraine fera usage de son droit d'autodéfense. Je vous le dis en tant que diplomate. Certes, les participants aux pourparlers espèrent qu'ils permettront une percée, mais dans le cas contraire, l'Occident est prêt à imposer de nouvelles sanctions à la Russie. Le secrétaire d'État américain John Kerry en a discuté avec ses homologues français, allemands et britanniques, ainsi qu'avec la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Catherine Ashton.
Et puis les secouristes redoublaient d'efforts ce jeudi matin pour tenter de sauver d'éventuels survivants du naufrage d'un ferry près de la côte méridionale de la Corée du Sud, avec près de 290 personnes toujours portées disparues. Mais les courants empêchent les plongeurs de pénétrer dans le navire. 7 corps ont été récupérés et l'espoir de retrouver des rescapés s'amenuise 24 heures après que le ferry a sombré alors qu'il se rendait vers l'île de Jeju avec des centaines de jeunes étudiants à bord. Sur les 475 personnes à bord, 179 ont pu être secourues, ont indiqué les gardes-côtes.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité. Merci Anne et à tout à l'heure. Vous êtes toujours branchés sur la VOA émettant de Washington. Le Monde aujourd'hui se poursuit avec Jacques Aristide au micro. Les États-Unis sont pour le respect de l'ordre constitutionnel en République démocratique du Congo et au Burundi. C'est ce qu'affirme l'envoyé spécial américain pour la région des Grands Lacs. Dans une interview à la VOA, Russ Feingold s'est prononcé contre les possibles candidatures de Joseph Kabila en RDC et de Pierre Nkurunziza au Burundi. Nicolas Pineau, l'émissaire américain, s'est surtout prononcé sur la situation au Congo-Kinshasa.
Oui, Russ Feingold s'est réjoui du désarmement complet du mouvement du 23 mars suite à l'action conjointe de la MONUSCO et de l'armée congolaise. Pour le diplomate américain, il faut à présent stabiliser les zones qui ont été libérées des groupes armés. Autre priorité, la réforme de l'armée et l'organisation prochaine d'élections libres et transparentes. Quant à une possible candidature de Joseph Kabila, M. Feingold s'y oppose.
Je ne pense pas qu'il y ait débat, puisque la Constitution est claire. Le président ne peut faire que 2 mandats et cela doit être respecté. La Constitution ne devrait pas être changée pour quelqu'un qui est en fonction. Je pense que c'est une mauvaise pratique. C'est important que les élections locales, provinciales et présidentielles soient achevées d'ici 2016 dans le respect de la Constitution.
Autre débat en cours en République démocratique du Congo, la prolongation du mandat de la MONUSCO. Certaines voix se font entendre pour que la mission onusienne, présente depuis 1999 dans le pays, réduise ses effectifs, actuellement estimé à 17 000 casques bleus. L'envoyé spécial américain pour la région des Grands Lacs estime que l'heure n'est pas venue pour la MONUSCO de plier bagage.
Ça ne marcherait pas en ayant que la brigade d'intervention. C'est que cette opération coûte cher et ça ne peut pas continuer pour toujours. Ce n'est pas le bon moment, quand on a du succès, de s'en aller après avoir éliminé le M23 et maintenant de s'attaquer aux alliés FDLU et, espérons-le, les FDLR et d'autres groupes.
Russ Feingold s'est aussi exprimé sur la situation au Burundi, qui inquiète fortement Washington. Là encore, il s'est opposé à tout changement de la Constitution en vue de la présidentielle de 2015 et d'une éventuelle candidature de Pierre Nkurunziza.
Il est l'heure maintenant de retrouver nos témoins de l'actualité, les journalistes, les citoyens journalistes de la RDC.
Pour 100 citoyens journalistes de la Voix de l'Amérique à Goma, Charlie Kasereka. À Goma, les bateaux qui effectuent le trafic sur les lacs Kivu, Goma, Bukavu restent bloqués au port depuis le lundi 14 avril. Les propriétaires de ces bateaux refusent de payer une taxe de 100 francs congolais par colis de 100 kg instauré par le gouvernement provincial. Seuls les petits canaux du gouvernement provincial et ceux de certains particuliers continuent à faire les navigations. Mais pour plusieurs gomatraciens, les prix à payer pour les tickets qui s'évaluent entre 25$ et 50$ américains n'est pas à la bourse de la majorité des gomatraciens qui effectuent des navettes sur le lac Kivu, Goma, Bukavu. De l'autre côté, les commerçants qui avaient déjà chargé leurs marchandises dans ces bateaux restent inconsolables parce que certains de leurs produits tels que les laits, les choux, les pommes de terre, la viande et les fromages qui avaient déjà été chargés dans ces bateaux et qui n'est pas congelé jusqu'à aujourd'hui commencent à se décomposer. Ces commerçants appellent à la clémence de l'autorité provinciale pour que les bateaux soient autorisés à quitter les ports SNCC de Goma.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamerique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
Au Nigeria, les familles des quelques 100 jeunes lycéennes enlevées à Chibok lundi dans l'état de Borno ont manifesté hier pour que le gouvernement les retrouve sans tarder. Le même jour, une bombe explosée dans une gare routière près d'Abuja, faisant au moins 72 morts et plus de 130 blessés. Les deux attaques ont été attribuées à Boko Haram. Pour une analyse de ces attaques répétées, Nathalie Barge a joint le professeur Apollonia Okwudishu de l'université d'Abuja.
J'aimerais commencer en déclarant le choc que cette nouvelle m'a posé pour dire que kidnapper des jeunes filles parce qu'elles se trouvent dans l'école, c'est vraiment un développement triste, une dénigration des droits humains. Parce que les jeunes filles ont les droits fondamentaux de bénéficier de l'éducation comme tout autre citoyen. La question de l'enlèvement de ces jeunes filles est vraiment bien compliquée parce que on ne sait pas exactement qui est responsable de cet acte. Le nombre de jeunes filles est vraiment très élevé. On ne sait pas exactement si c'est vrai ou s'il y a des choses cachées derrière cet enlèvement.
Que voulez-vous dire?
Je ne comprends pas ce qu'on peut gagner par cet enlèvement. Est-ce qu'il y a un message?
Les enseignants que vous connaissez, que vous disent-ils sur les conditions de travail là-bas?
En ce qui concerne les conditions de travail, la plupart des écoles sont fermées. Et ceux qui sont ouvertes, ce qu'on m'a dit, c'est que les professeurs se cachent pour se déplacer à l'école ou pour aller de l'école chez eux. Il faut se déguiser. Ce que je sais, c'est que ce nouvel développement de Boko Haram va être une sorte d'effacement de ce qu'on a gagné au cours des années. Parce que les parents vont commencer à nouveau à cacher leurs filles. Quelques parents peuvent aussi commencer à se déplacer pour des autres régions, c'est-à-dire des autres villes, pour vivre avec leurs enfants, pour leur permettre de continuer avec leur éducation. Parce que la plupart des parents au Nigeria, que ça soit au nord, que ça soit au sud, savent l'importance de l'éducation pour leurs enfants. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a des gens, pour s'assurer que le fils continue à être éduqué, ont commencé à se déplacer.
Professeur Apollonia Okwudishu de l'Université d'Abuja.
Timothée Golangmaï avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Un autre coup de projecteur sur Boko Haram, une nouvelle fois accusé d'être responsable d'un sanglant attentat qui a fait plus de 70 morts dans la banlieue d'Abuja lundi. Comment s'expliquent les difficultés du gouvernement nigérian à mettre un terme à cette insurrection? Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Et rendez-vous donc ce jeudi à 19h temps universel sur la Voix de l'Amérique.
15 agences des Nations Unies et des organisations humanitaires privées lancent un appel pour 274 millions de dollars pour financer l'aide d'urgence pour les personnes fuyant la violence en République centrafricaine. Près de 200 000 personnes ont fui la RCA depuis décembre, mais l'ONU dit s'attendre à une augmentation atteignant plus de 360 000 d'ici la fin de l'année. Michel Joseph.
Ce financement permettra de répondre aux besoins pressants des réfugiés de la République centrafricaine qui ont fui vers le Cameroun voisin, le Tchad, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Il bénéficiera également aux milliers de rapatriés et ressortissants de pays tiers, principalement le Tchad, le Cameroun et le Congo, dont les familles s'étaient installées en RCA. Selon l'ONU, ces personnes sont particulièrement vulnérables parce qu'elles sont obligées d'aller dans des pays où elles n'ont plus de lien ou de système de soutien. L'UNICEF indique que plus de la moitié des demandeurs d'asile ou déplacés à l'intérieur de la RCA sont des enfants. Manuel Fontaine, le directeur régional de l'UNICEF pour la région Afrique occidentale et centrale, affirme que ces réfugiés, principalement des femmes et des enfants, arrivent dans les pays d'asile épuisés et en très mauvaise santé. Beaucoup d'enfants souffrent de malnutrition sévère, dit-il, et ont besoin d'une alimentation thérapeutique spéciale. Il dit qu'un grand nombre d'enfants ont été séparés de leur famille et sont arrivés d'eux-mêmes dans un pays étranger. Nous avons identifié plus de 1000 enfants, ce qui est une proportion très grande du nombre de personnes ayant traversé la frontière. Cela semble indiquer, comme on l'imagine, que beaucoup de gens ont quitté sous un grand stress et dans l'urgence pour leur protection. Il y a de bons systèmes en place pour identifier ces enfants et au moins les protéger immédiatement et commencer à trouver leurs origines et faire la réunification. Selon Fontaine, seulement environ 10% de ces enfants ont retrouvé leur famille, un taux très faible, a-t-il dit. Fontaine souligne que l'UNICEF et ses partenaires ont lancé des campagnes de vaccination contre la rougeole et vont bientôt commencer une campagne contre la poliomyélite au Tchad. Il estime que le risque de maladie est très élevé durant la saison des pluies qui approche. Nous prépositionnons un dispositif de traitement du choléra, par exemple, dans certaines zones parce que nous pourrions en avoir besoin. Nous prépositionnons des aliments thérapeutiques prêts à être utilisés, dont nous le faisons. J'espère que nous aurons le temps et les moyens de le faire suffisamment et en quantité suffisante, car il est vrai que les routes vont être extrêmement difficiles à utiliser. L'ONU dit que l'argent est nécessaire pour fournir des abris, de la nourriture, de l'eau, de l'assainissement, des soins de santé et satisfaire les besoins de base.
Le monde aujourd'hui continue sur la VOA. Sans plus tarder les brèves sportives, nous retrouvons Bagassi Koura. Nous ouvrons sur du football allemand.
Oui, là-bas, on a joué la demi-finale de la Coupe nationale et elle mettait hier aux prises le Bayern Munich au Kaiserslautern. Victoire sans appel des Bavarois, 5-0.
4 matchs amicaux en 2 jours pour le TP Mazembe.
Oui, les Corbeaux sont présentement en stage en Zambie et selon Foot Africa 365, les hommes de Patrice Carteron comptent disputer pas moins de 4 matchs amicaux en 2 jours contre des équipes locales.
Les joueurs de Manchester City, les mieux payés du monde.
Selon une étude britannique révélée mercredi et citée par le journal L'Équipe, les joueurs de Manchester City sont les sportifs les mieux payés au monde dans les sports collectifs. Le salaire annuel moyen des camarades de l'Ivoirien Yaya Touré dépasserait en effet 6,5 millions d'euros, ce qui les place en tête du classement devant les New York Yankees et les Dodgers de Los Angeles, deux équipes de baseball. Les équipes européennes de football occupent 6 places du top 10. Et puis enfin, quelques résultats en NBA. Le championnat de basketball nord-américain.
Oui, les Knicks de New York ont conclu une décevante saison avec un gain de 95-92 aux dépens des Raptors de Toronto hier soir au Madison Square Garden. Même défait, les Raptors ont consolidé leur place au troisième rang de l'association Est en vue des éliminatoires. D'autres résultats en bref, Chicago 86, Charlotte 91, Indiana 101, Orlando 86, Dallas 105, Memphis 106, Atlanta 111, Milwaukee 103, Utah 136, Minnesota 130, Houston 100, La Nouvelle-Orléans 105, Détroit 111, Oklahoma City 112, LA Lakers 113, San Antonio 100, Washington 118, Boston 102, Brooklyn 85, Cleveland 114, Philadelphie 100, Miami 87, Los Angeles Clippers 104, Portland 110, Phoenix 104, Sacramento 99 et ouf, Golden State 116, Denver 112. L'heure de la pause musicale du matin, j'accueille Roger Muntu au programme Papa Wemba dans Blessure.
Salut Jacques, la mort de l'artiste congolais Kinkester Emenea le 13 février 2014 à Paris suscite encore des réactions dans l'univers musical africain. Papa Wemba, un des mentors de l'artiste décédé, a sorti Blessure, une chanson pour rendre hommage à celui qu'il qualifie l'un des généraux de Molokai, le patron du groupe Viva la Musica dans lequel Kinkester Emenea avait fait ses premiers pas, hein, garde toujours un bon souvenir de ce dernier.
En fait, je ne mâcherai jamais mes mots. Je l'ai accueilli à Kinshasa par le canal Benami Moussamo Longo, qui l'avait repéré à Lubumbashi au campus là-bas, parce que je l'ai volé dans un groupe d'étudiants. Et mon ami Moussamo Longo l'a repéré là-bas. Il est venu avec Kinshasa Emenea à Kinshasa. Et Kinshasa Emenea est venu faire partie du groupe Viva la Musica. Et c'est là où je l'ai laissé librement le couloir de s'exprimer vraiment librement. Il s'est installé, il a imposé son écriture, il a imposé sa façon de faire la musique. Nous l'avons adopté et puis par là, quand il a eu la décision d'aller faire la carrière solo, je savais qu'il allait se passer quoi. Parce que c'était un artiste vraiment, vraiment complet quoi. Je ne dis pas ça pour le flatter, mais je dis en connaissance de cause. Quand il est venu dans vivre la musique, il avait un timbre vocal qui venait un peu d'ailleurs quoi. Et il savait comment m'accompagner. Parce que j'avais eu bon nombre de chanteurs avant lui, mais personne ne savait comment m'accompagner quoi. Et lui, quand il est venu, c'est pourquoi j'ai dit qu'il a imposé sa voix dans le répertoire de vivre la musique. Atikali kaka na mawau Pisoli oyele kinzila matama Etiolate oyetangi na motema Bisis, sakita ba pechere benye Ezalite, maide e trahirye Kanda e baleo, patama e bipoke Pasi pasi na e
D'autres artistes de renommée internationale, à l'instar de Ready Amici, ont quand même devancé Papa Wemba en sortant des titres exclusifs pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Papa Wemba, blessure. Merci Roger.
De rien Jacques, bonne journée.
Roger Muntou, que vous retrouvez chaque jour à 20h, temps universel, dans le RM Show.
Généraux, y'a molo caillé. Maman yonda lo bakananga, chongo keba mo ki les alimabe. Oui, je les confirme, les bons des méchants. Source et bibi sa babo la boue. Asi piago, na beto ya bilo.
Avant de refermer ce numéro du Monde aujourd'hui, un récapitulatif de l'actualité en ce jeudi, nous retrouvons Anna Botson.
Au Sénégal, les juges d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite ont décidé hier du sort de Karim Wade, fils et ancien ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade. Son procès aura finalement lieu en juin. En Guinée, 7 personnes ont péri mardi suite à un effondrement dans une mine d'or dans la province de Siguiri. Au moins 8 autres personnes ont été blessées, dont 2 sérieusement. En Guinée-Bissau, un second tour de la présidentielle opposera le 18 mai José Maria Vache, candidat du président africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, à Nuno Gomes Nabiam, candidat soutenu par l'armée. Des négociations sur la crise ukrainienne doivent s'ouvrir aujourd'hui à Genève. Youri Klimenko, représentant de l'Ukraine à l'ONU, a affiché son optimisme à quelques heures des pourparlers qui s'annoncent difficiles.
Merci Anne Albertson qui a également dirigé la mise en onde. Merci aux collègues qui m'ont aidé à préparer cette édition. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Merci de votre fidélité. Très bonne journée de jeudi sur la VOA. Take care.